Donc, la semaine dernière, c'est-à-dire hier, nous avons vu ceci. Nous avons vu d'abord que dans de nombreux langages de programmation, par exemple Java, mais également C, également Camel, et puis on pourrait dire ça à peu près de tous les langages qui existent, il y a un ensemble de constructions qu'on appelle le noyau impératif. Et je vous rappelle quelles sont ces cinq constructions, la déclaration, l'affectation, la séquence, le test et la boucle. Et on a vu que dans la déclaration, il y avait deux types de variables qu'on pouvait déclarer. Des variables qu'on s'engageait à ne jamais affecter, donc c'est le lien qui est entre la déclaration et l'affectation, et on appelait ces variables finales, et des variables qu'on s'autorisait à affecter, et on les appelait mutables. On a vu ensuite que pour définir la sémantique de ce noyau fonctionnel, on introduisait une fonction des variables dans les valeurs, qui à chaque variable associe sa valeur à un instant donné, et ça s'appelle l'état, et l'état est décomposé en deux fonctions qui sont une fonction des valeurs dans un ensemble intermédiaire qu'on appelle les références, et une fonction des références dans les valeurs. La première fonction s'appelle l'environnement, et la deuxième la mémoire. Mais on s'est dit finalement, quand on a une variable qui est finale, on voudrait associer directement la valeur ici dans l'environnement, et donc au lieu de mettre ici pour l'espace d'arrivée de l'environnement ref union val, on a dit on va mettre val, et puis ref va juste être un sous-ensemble de val. Et puis m, la mémoire, en revanche, ne change pas, ça reste une fonction des références dans les valeurs. On a défini deux fonctions, une fonction θ qui, à chaque expression du langage, associe une valeur, et par expression du langage, on entend quelque chose précisément qui a une valeur, mais ce qui est important, c'est de comprendre la différence entre expression et instruction. X plus 3, c'est une expression, Y égale X plus 3, c'est une instruction. Donc, à chaque expression, on associe une valeur dans un état qui est formé d'un environnement et d'une mémoire. Et à chaque instruction, P, on associe une mémoire, M', qui est la manière dont la mémoire M a été transformée par l'exécution de cette instruction. Et encore une fois, l'environnement ici n'a pas changé. Alors, un certain nombre d'élèves sont venus me... Ah oui, et puis ça, c'était la définition de la fonction sigma. Un certain nombre d'élèves sont venus à la fin de l'amphi m'interroger sur les mystères de la déclaration. Et ce qu'on a dit quand on a défini ce qu'était une déclaration, on a dit ici, on déclare une variable x, mais la forme de la déclaration, l'instruction, ce n'est pas juste cette partie ici, int x égale 3, mais c'est l'ensemble, int x égale 3, x égale x plus 1. Donc on a dit, une déclaration, c'est formé comme ça, d'un type, d'une variable, du signe égal, d'une expression, d'un point virgule, et ici, d'une instruction qui est la portée de cette déclaration. Et donc une question qui se pose naturellement, c'est pourquoi est-ce qu'on inclut la portée ici dans la déclaration, et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, il y a d'une part ce petit bout bleu, qu'on pourrait appeler une déclaration, et ensuite une séquence avec l'instruction Q. Donc pourquoi est-ce qu'on est obligé d'inclure l'instruction Q dans l'instruction déclaration, et on ne peut pas simplement dire on fait d'abord la déclaration et ensuite on a une instruction. La raison, c'est que si on avait une séquence, à ce moment-là, on devrait exécuter les deux éléments de la séquence, P1 et P2, dans le même environnement. Okay, rappelez-vous la définition de la séquence P1, P2, eh bien, on exécute d'abord P1 dans l'environnement E et la mémoire M. Ça nous donne une mémoire M'. C'est le nouvel état de la mémoire, l'état intermédiaire de la mémoire quand on a fini d'exécuter P1 mais qu'on n'a pas commencé à exécuter P2. Et c'est dans cette mémoire qu'on va exécuter P2, mais l'environnement est le même. Or, dans une déclaration, le but est qu'on puisse utiliser une variable supplémentaire, X, dans Q. Et donc, on ne peut pas considérer ça simplement comme une séquence. Donc, c'est pour ça qu'on a inclus ici Q dans la déclaration, et on a dit, eh bien, qu'est-ce que c'est que exécuter l'ensemble de toute cette instruction? Eh bien, ça consiste à exécuter Q dans cet environnement étendu, où on a rajouté ici une liaison entre la variable X et une certaine référence R, qui est elle-même liée à une valeur V, qui est la valeur de T, dans la mémoire. On pourrait se dire, C'est juste qu'on s'est trompé en donnant la séquence. On aurait peut-être dû simplement considérer ça comme une séquence, mais ici, expliquer que l'exécution de P1 peut modifier non seulement la mémoire, mais aussi l'environnement, et ici, exécuter P2 dans l'environnement dans lequel a été produit par l'exécution de P1. Alors ça, on aurait pu le faire, mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pour la raison suivante. C'est que la portée de la variable x a une fin. Okay, ici, j'ai le droit d'utiliser x dans cette instruction x égale x plus 1. En revanche, dès que j'ai fermé la collade que j'avais ouverte au moment de la déclaration, eh bien ici, la variable x n'est plus visible. Donc attention, faire une déclaration, ça ne veut pas dire à partir de maintenant, il y a une variable x jusqu'à la fin du temps. Ça veut dire, il y a une variable x jusqu'à ce que la portée soit achevée, jusqu'à la fin de la portée de cette variable. Et donc, vous voyez que ici, je ne peux pas considérer que là, j'ai une séquence et puis ici, une autre séquence, parce que, et là, une autre séquence, je veux dire, avec cette instruction, parce qu'ici, certes, je pourrais dire, je vais étendre l'environnement et puis exécuter ensuite ça dans l'environnement étendu, mais je n'aurais pas de moyen de dire, maintenant, je veux cesser d'étendre l'environnement et revenir à l'environnement que j'avais avant. D'accord ? Je l'ai perdu, l'environnement que j'avais avant. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de considérer la portée Q comme faisant partie de l'instruction et d'utiliser cette définition de la fonction sigma pour les déclarations. Voilà, donc un bon exercice à faire, c'est de considérer cette instruction et d'essayer de calculer la mémoire sigma de PEM, c'est-à-dire de comprendre comment la mémoire évolue quand on exécute cette instruction. Et vous verrez la raison pour laquelle cette instruction est exécutée dans un environnement E, ici, dans lequel Y est déclaré, et également X, donc un environnement E étendu par une déclaration de X, alors que cette partie est exécutée dans un environnement qui ne contient que la déclaration de Y et pas la déclaration de X. Okay ? Et ça vient du fait qu'on a d'abord ici une séquence entre tout ça et ça, et donc on va exécuter chacun des bouts l'un après l'autre, mais dans le même environnement. Et en revanche, c'est quand on va se focaliser sur cette partie qu'on va dire, eh bien, dans ce cas-là, on change l'environnement pour cette partie-là. D'accord ? Donc ça, c'est un point un peu subtil, mais c'est important de comprendre que les variables ont une portée qui est d'une part limitée et d'autre part qui est statique. C'est-à-dire, au moment où vous voyez le programme, eh bien, vous pouvez tout de suite dire, ici, X n'est pas visible, ici, X est visible. La portée, quand je dis qu'elle est statique, c'est-à-dire que c'est une propriété purement géométrique du programme lui-même. Ce n'est pas une propriété de la manière dont le programme s'exécute dans le temps. Ce n'est pas une propriété temporelle du programme, c'est une propriété purement spatiale. C'est une propriété qui est propre à la structure du programme et non pas à la manière dont il est exécuté. Bien, alors, juste une petite remarque de présentation. Les enseignants en TD chaque année me font le même reproche, qui est que je vous donne de mauvaises habitudes, par exemple en écrivant cette instruction de cette manière, alors que eux vous apprennent en TD à l'écrire de cette manière. Vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf qu'on est revenu à la ligne, ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, alors que moi j'ai tout écrit sur une ligne. Et c'est la même, je fais la même erreur dans le poly, j'écris toujours tout sur une ligne comme ça. Bon, et donc, suivez les conseils de vos enseignants de travaux dirigés qui vous disent d'écrire comme ça. C'est comme ça que moi-même, j'écris des programmes quand je les écris. Simplement, j'ai une contrainte supplémentaire qui est de faire tenir les programmes dans un transparent, ce qui est une contrainte assez difficile. C'est quasiment la chose la plus difficile quand on prépare un cours, c'est d'arriver à faire tout tenir dans les transparents. Et donc, je ne peux pas utiliser ça, sinon au lieu d'avoir 20 transparents, il y en aurait 100 pour chaque amphi. Donc, ce n'est pas possible. Et de la même manière, au début, en écrivant le poly, j'avais essayé d'écrire ça comme tout le monde, comme ça. Et puis, le poly était essentiellement des grandes feuilles blanches avec des accolades qui se baladaient. Donc, ça ne va pas pour un poly. Donc, je suis obligé d'utiliser une autre convention d'écriture. Mais bien entendu, ce n'est pas la convention d'écriture qu'il faut utiliser dans les programmes. Un programme comme ça est beaucoup plus lisible. En particulier, vous voyez beaucoup mieux la portée ici de la variable x, puisque vous voyez la déclaration qui se trouve ici, vous trouvez la collade ouvrante, la collade fermante est juste en dessous, et donc vous voyez que ça, c'est exclu de la portée, alors que quand on l'écrit comme ça, bon, bah, il faut arriver à flasher les parenthèses pour savoir exactement où on est. Voilà. Donc ça termine pour les rappels de l'amphi d'hier. Et on va attaquer aujourd'hui la notion de fonction. Donc voici un petit bout de programme qui sans doute ne sert pas à grand-chose. Enfin, si vous utilisez le RER, vous verrez que ça ne sert à rien. Mais c'est un petit bout de programme qui génère et qui imprime les horaires que le RER ne respecte pas. Donc, c'est une séquence, essentiellement, une séquence de séquences. Il y a plusieurs instructions d'impression. Et donc, ça dit le RER en direction 2, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, partira à 8h50. Puis là, on saute une ligne, on saute une ligne, on saute une ligne. Le but, c'est de sauter trois lignes pour que les horaires soient bien présentés. Et ensuite, on dit le RER en direction 2, Massy-Palaiseau, partira à 8h55. Sauter une ligne, D'accord ? Attention, le RER de 8h50, il part bientôt. Là, il doit être 8h45 à peu près. Donc, voici un programme. Et vous imaginez que si on veut engendrer tous les horaires de la ligne B, eh bien, on va avoir un programme énorme où, à chaque fois qu'il y a un RER, on est obligé de mettre ces 4 lignes, ces 7 lignes, et de sauter 3 lignes. Bien, donc ça, ce n'est pas une bonne manière de programmer les choses. Donc, on a inventé des méthodes qui permettent d'éviter toutes les répétitions qui se trouvent dans les programmes. Donc, Gérard Berry, il y a une formule frappante pour énoncer ce principe. Il appelle, c'est le principe WTO. Alors, WTO, ça veut dire « write things once ». Et donc, il faut toujours penser, quand vous écrivez deux fois la même chose dans un programme, c'est que votre programme est mal écrit. D'accord ? C'est exactement comme ce qu'on vous a appris en français en sixième, il ne faut pas faire de répétition. Si vous faites une répétition, c'est que vous pouvez avoir un programme plus structuré dans lequel vous évitez de répéter un même motif. Donc le premier motif que je vois se répéter ici, c'est sauter trois lignes qui se trouvent là et qui se trouvent là. Et donc, je peux vouloir définir une instruction qui s'appelle sauter trois lignes et que je définis de cette manière. Je lui donne un nom, sauter trois lignes. Et ici, je dis ce qui doit être exécuté au moment où j'exécute l'instruction sauter trois lignes. Alors ça, c'est le corps de la définition de la fonction. C'est juste un petit bout de programme, une instruction qui va être exécutée, auquel je donne un nom, sauter trois lignes. Et ici, j'ai indiqué d'abord que cette fonction était statique. On verra ce que ça veut dire beaucoup plus tard. Et ici, j'ai mis une paire de parenthèses et le mot-clé void qu'on va expliquer aujourd'hui. Bien, une fois que j'ai défini cette instruction sauter trois lignes, je peux réécrire mon programme initial d'une manière beaucoup plus concise. Ici, au lieu d'écrire system.out.println de vide trois fois, eh bien, j'ai juste utilisé une fois l'instruction sauter trois lignes que j'ai définie avant. Bien, donc si vous avez fait un petit peu de mathématiques, si vous avez fait un petit peu de science en général, vous savez que cette opération qui consiste à nommer un concept et ensuite à l'utiliser est ce qui nous permet de parler. Par exemple, au lieu de répéter tous les jours l'expression « une structure munie d'une loi interne, associative, qui a un élément neutre et dans laquelle tout élément a un symétrique », on dit « un groupe. » Et donc, a fortiori, non, espace euclidien est un bien meilleur exemple, puisqu'il faudrait que je dise un ensemble muni d'une part d'une loi interne associative qui est un élément neutre et dans lequel tout élément a un opposé, et d'autre part d'une loi externe distributive avec une unité, etc., muni en outre d'une forme bilinéaire, symétrique et définie positive. Et donc pour ça, on dit un espace euclidien. J'ai oublié de dire qu'il était de dimension finie, bien entendu. Donc, vous savez que sans cette possibilité, on ne pourrait pas du tout faire de science, ni même parler. Donc, c'est la même idée qu'on retrouve ici. On définit un nouveau mot, sauter trois lignes, on donne sa définition, et ensuite, on l'utilise. Alors, cependant, vous pouvez remarquer que, certes, j'ai économisé 4 lignes dans ce programme, mais si on voit ce qui est répété dans le programme, ce n'est pas tellement le fait qu'il y avait sauter une ligne, sauter une ligne, sauter une ligne, qu'on a remplacé par sauter trois lignes, c'est le fait que tout ce bloc ici est similaire à tout ce bloc là. Alors quand je dis similaire, c'est précisément parce qu'il n'est pas identique, Et il y a deux choses qui changent. Il y a la destination ici du RER et il y a l'heure du RER, 8h50, 8h55. Donc ça veut dire que le principe que j'avais là est trop naïf. Il ne suffit pas d'isoler un petit bout du programme, de lui donner un nom, mais il faut pouvoir isoler un petit bout de programme tout en le paramétrisant. Donc c'est ce que je fais ici avec la fonction annoncer RER qui reprend le petit bout du programme que j'avais et dans laquelle, après avoir déclaré le nom, j'indique qu'il y aura deux paramètres. Et vous voyez que la déclaration des paramètres, ici qui s'appelle D pour la destination et H pour l'horaire, eh bien, sont très similaires à la déclaration d'une variable. Donc j'indique le type de ces paramètres, exactement comme si j'indiquais le type d'une variable, et avant j'indique si ce paramètre est final ou mutable, c'est-à-dire si dans le corps de la fonction, je vais l'affecter ou non. En l'occurrence, ici, je n'ai pas l'intention de les affecter, donc je les ai déclarés finaux. Et le corps du programme, j'ai juste fait un copier-coller de ce qu'il y avait sur le transparent précédent, sauf qu'ici, au lieu de mettre, au lieu d'afficher Sarah Millet Chevreuse, eh bien, j'ai affiché la valeur du paramètre D. Et ici, pareil, la valeur du paramètre H. Une fois que j'ai défini cette fonction, eh bien, je peux l'utiliser et mon programme, maintenant, devient beaucoup plus court. Annoncer RER, Sarah Millet Chevreuse, 8h50. Annoncer RER, Massy Palaiseau, 8h55. Cet exercice, c'est celui qui a donné le plus de difficultés à mon traducteur. Quand le poly a été traduit en anglais, il n'a absolument pas compris cet exercice. Et il ne comprenait pas ce qu'était Massy Palaiseau et Saint-Rémy les Chevreuses. Ni un RER, d'ailleurs. Bien, alors, ce n'est pas tout, puisque si on veut ici, si on regarde un autre programme, donc j'ai des variables A, B, C, D qui valent 3, 4, 5 et 12, et puis je calcule U qui est la racine carrée de A2 plus B2, et V qui est la racine carrée de C2 plus D2, et vous voyez qu'on retrouve cet algorithme qu'on connaît depuis 4500 ans, qui consiste à calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Bien, ici, ce que je veux isoler, c'est ce petit bout du programme qui revient deux fois et que je veux écrire une seule fois. Mais ici, il y a une différence avec les deux exemples précédents, c'est que le petit bout du programme que je veux isoler n'est pas une instruction, c'est une expression. Et donc, une fois que j'aurai calculé à racine de A2 plus B2, dans une fonction, il faut que je sois capable de faire revenir l'information vers le programme principal, vers le programme lui-même, et ça, c'est l'opération duale du passage d'arguments. Le passage d'arguments consistait à envoyer des valeurs du programme principal vers la fonction, et maintenant, je veux récupérer des valeurs de la fonction vers le programme principal. Et donc ça, c'est possible, et ça se fait de cette manière. Je définis une fonction hypoténuse qui prend en argument deux flottants en double précision, x et y, et qui retourne la racine de x2 plus y2. Et ça, ça se fait avec un nouveau mot-clé qu'on n'avait pas encore rencontré, qui est le mot-clé return. Et également, vous voyez que j'ai indiqué avant le type, avant le nom de la fonction hypoténuse, j'ai indiqué le type de la valeur retournée, qui est elle-même un flottant en double précision. Ensuite, j'écris mon programme exactement comme avant, je définis ABCD, et puis, au lieu ici d'écrire U égale racine de blablabla, j'écris U égale hypoténuse de AB, V égale hypoténuse de CD. Alors, rappelez-vous que la chose à se souvenir, c'est qu'il y a ce nouveau mot-clé return, en particulier si vous avez fait du camel. Il n'y a pas de mot-clé return en camel, on va expliquer la différence entre camel et Java, pourquoi il y a un mot-clé return dans un cas et pas dans l'autre. Et c'est une autre manière de repérer les élèves qui ont fait du camel avant de faire du Java, c'est qu'ils oublient tout le temps le mot-clé return. Donc souvenez-vous que, surtout si vous avez fait du camel, que vous avez pris des mauvaises habitudes, au moins selon les critères de Java. Alors, comment cette notion se retrouve-t-elle dans les langages de programmation? En Java, on vient de voir la syntaxe, on met toujours le mot-clé statique, on met le type de la valeur retournée, on met le nom de la fonction, et puis la déclaration des arguments, qui consiste à chaque fois à indiquer le type et le nom de l'argument, qui est une variable, et on indique si cet argument est final ou mutable. Par exemple, T1, X1 est finale, alors que xn est mutable. Pourquoi est-ce qu'il est mutable? Non pas parce que j'ai mis le mot-clé mutable, mais parce que je n'ai pas mis de mot-clé du tout. Et donc, par défaut, il est mutable. C'est quand la variable ou l'argument est final que je dois l'indiquer. En camel, ça s'écrit d'une autre manière. Ça s'écrit let f de x1 xn est égal à t in p. P, c'est le corps de la fonction, c'est le petit bout de programme, l'instruction que je vais exécuter à chaque appel. Ici, quelles sont les différences? D'abord, les arguments sont toujours finaux. Donc, il n'y a ni mot-clé final, ni mot-clé mutable. Les arguments sont toujours finaux, c'est une convention de camel. Et autre différence, je n'ai pas indiqué les types. Et donc ça, c'est une des grandes différences entre camel et, d'un côté et Java et C de l'autre, c'est que camel devine les types, on dit camel infère les types, il n'y a pas besoin de les indiquer. Ici, camel tout seul va savoir que x1 a le type t1. Et donc voilà comment on déclare la fonction, on définit la fonction hypoténuse, let hypoténuse de xy égale square root de racine de x fois x plus y fois y. Vous avez vu ici, j'ai utilisé en camel la multiplication sur les flottants, l'addition sur les flottants, et c'est ça qui va aider camel à deviner que x et y sont des flottants et non des entiers. En C, c'est un peu comme en Java, sauf qu'il n'y a pas le mot-clé statique, donc on attaque par le type de retour, le nom de la fonction, la déclaration des arguments. S'ils sont finaux, on met const, et pas final, bien sûr, c'est, const, c'est la forme du mot-clé final en C. Et voici comment on définit une autre fonction qui prend en argument x et y, et qui retourne x plus 1, int f, const int x, int y, return de x plus 1. Bien, une différence entre camel d'un côté et Java et C de l'autre, c'est la présence de ce mot-clé return. En camel, on écrit let hypoténuse de xy égale racine de x2 plus y2, et non pas return de x2 plus y2. En Java, on écrit, ainsi qu'en C, on écrit return de racine de x2 plus y2. Cette instruction return, en général, on la met à la dernière ligne de la fonction, on a fini le calcul, on retourne une valeur, mais elle a une puissance beaucoup plus importante, puisque si je trouve une instruction return ici, au milieu de l'exécution d'une fonction, eh bien, ça interrompt l'exécution de cette fonction. Donc ici, j'ai défini une fonction signe qui prend un entier en argument et qui retourne moins 1 si cet entier est négatif, 0 si l'entier est 0 et 1 sinon. Et vous voyez que j'ai mis un if, mais je n'ai pas mis de else. Pourquoi? Parce que si jamais x est négatif, alors l'instruction return va interrompre le déroulement de la fonction et toute la partie qui se trouve en rouge ne va pas être exécutée. Alors voilà un type d'explication qui est relativement confus quand on l'explique en langue naturelle. Pourquoi? Imaginez que j'ai une fonction f qui appelle une fonction g. Donc j'ai le programme principal qui appelle une fonction f qui appelle elle-même une fonction g. Et à l'intérieur de la fonction g, je trouve return de 4. Donc j'ai terminé l'exécution de g et j'interromps son exécution, j'ai une valeur, j'ai trouvé un return, et je reviens, mais où? Est-ce que je reviens dans l'exécution de f, parce que l'exécution de g est terminée, donc mon appel à la fonction g qui avait dans la fonction f est terminé, et je reviens dans f, ou est-ce que je reviens au programme principal, parce que j'étais en train d'exécuter f, ce qui m'a demandé d'aller exécuter g, et j'ai trouvé un return et je reviens? Donc, il y a une idée. Oui? On revient dans la fonction f. Alors, effectivement, c'est le cas, on revient dans la fonction f, mais mon explication pouvait tout à fait laisser croire qu'on revenait dans le programme principal. Et on verra beaucoup plus tard, quand on parlera des exceptions, que les exceptions sont un mécanisme qui nous permet de choisir si on veut revenir dans la fonction appelante, dans le programme principal, ou dans n'importe quelle fonction qui se trouve entre le programme principal et la fonction où on a appelé la fonction g. Donc l'explication en langue naturelle ne nous a pas dit où on retournait, et l'explication maintenant qu'on doit raffiner est dire on retourne dans le contexte d'appel de la fonction signe et non pas dans des contextes supérieurs. Bien, on a vu qu'une fonction pouvait faire plusieurs choses, mais essentiellement deux types de choses. Elle peut effectuer une action. Donc pensez à la fonction sauter trois lignes, pensez à la fonction annoncer RER. Ce sont des fonctions qui effectuent des actions. Ici, afficher quelque chose sur l'écran ou sur une imprimante. Mais elle peut aussi... Alors, un autre exemple d'action qui peut être effectuée, c'est modifier la mémoire. Donc, vous pouvez sauter dans une fonction, affecter une variable, et puis revenir, et la variable va rester affectée. Mais une autre chose que peut faire une fonction, c'est retourner une valeur. Et c'est typiquement ce qu'on a fait avec la fonction hypoténuse. Donc, une fonction qui ne retourne pas de valeur, et donc dont on espère qu'elle va effectuer une action, parce que si elle n'effectue aucune action et qu'elle ne retourne pas de valeur, on ne comprend pas très bien à quoi elle sert. Mais donc une fonction qui ne retourne aucune valeur porte un nom particulier, et ça s'appelle une procédure. Et ici, tous les langages en Corse ont des procédures, mais les langages donnent un statut différent aux procédures. Certains langages, comme Pascal, une espèce d'ancêtre de C et de Java, donnaient une syntaxe différente pour une fonction et une procédure. Donc on introduisait une fonction par un mot-clé spécial, qui était function, et on introduisait procédure par un mot-clé procédure. Donc dans la syntaxe même, on savait si une fonction retournait une valeur ou non. En Java et en C, quand on a une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne retourne pas de valeur, comme la fonction sauter trois lignes ou la fonction annoncer RER, eh bien à la place du type de retour qu'on trouve avant le nom de la fonction, on met un mot-clé spécial qui est le mot-clé void. Alors attention, il n'y a pas de type void. Void n'est pas un type. Vous ne pouvez pas déclarer une variable de type void, ni en Java, ni en C. Donc c'est juste un mot-clé qui remplace le nom du type. Donc là encore, c'est de la syntaxe. C'est la syntaxe, on regarde s'il y a void ou pas, qui permet de savoir si on a une fonction ou une procédure. Alors, en CAMEL, c'est encore différent de Pascal et de Java et de C. En CAMEL, une procédure, c'est une fonction comme les autres. Donc, en gros, il n'y a pas de procédure, mais elle retourne une valeur dans un type particulier qui s'appelle unit et qui est un type. Alors, une question qu'on se pose, c'est est-ce que unit, c'est un type qui ne contient aucun élément? Alors, non, et il contient un élément. Alors, c'est bizarre parce qu'on a l'idée qu'on ne veut transmettre aucune information, et on se dit, alors si on veut transmettre aucune information, il faudrait prendre un type vide, et en fait, on s'aperçoit qu'il faut un type à un élément. Mais c'est un principe que vous verrez dans le cours de théorie de l'information qui est en troisième année. Si vous ne voulez transmettre aucune information, il faut transmettre un élément d'un singleton, d'un objet à un élément. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Prenons le cas où on a deux éléments. Donc il y a une variable, on a une variable aléatoire qui peut prendre deux valeurs. Et je te dis par exemple, donne-moi un élément dans la paire 0,1. 0. Ça c'est une information, parce qu'il aurait pu me donner 1. Et donc quand j'ai entendu qu'il a dit 0, ben, j'ai appris quelque chose sur le monde que je ne savais pas avant. Bon maintenant je peux faire autre chose, donne-moi un élément dans le singleton 0. Je le savais. Et toi donne-moi un élément dans l'ensemble vide. C'est beaucoup plus difficile. Donc la question « donne-moi un élément dans l'ensemble vide » n'a aucun sens. La question dont la réponse est prévisible, c'est « donne-moi un élément dans un singleton ». Et bien sûr, quand il y a un ensemble plus grand, à ce moment-là, on commence à avoir une information, une quantité d'information qui est non nulle. Donc ici, si on ne veut transmettre aucune information entre la procédure et le programme, il faut utiliser ce type « unit » qui ne contient qu'un seul élément, comme son nom l'indique. Bien, par définition, quasiment, l'appel d'une fonction est une expression, alors que l'appel d'une procédure est une instruction. Ici, j'ai l'expression hypoténuse de 3,4, et je l'utilise comme une expression, c'est-à-dire, elle apparaît elle-même dans une autre expression, elle a une valeur, et donc c'est dans la fonction θ que je vais expliquer quoi faire pour calculer la valeur de hypoténuse de 3,4. En revanche, une procédure, comme sauter trois lignes, c'est-à-dire en Java, une fonction que j'ai déclarée sans donner de type de retour en indiquant le mot-clé void pour dire il n'y a pas de type de retour parce que c'est une procédure, eh bien c'est une instruction. Elle va, par exemple, se mettre en séquence avec une autre instruction ou se mettre à l'intérieur d'une boucle ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce qui se passerait dans le meilleur des mondes possibles. Mais il y a une petite bizarrerie qu'on retrouve aussi bien en Java qu'en C, c'est qu'un appel de fonction, comme hypoténuse, peut aussi être une instruction. Et dans ce cas-là, la valeur 5 qui est retournée par hypoténuse de 3,4 est juste perdue. On a exécuté hypoténuse. Hypoténuse nous a rendu le résultat 5. Mais comme on est dans un contexte où on avait appelé hypoténuse comme une instruction et non pas comme une expression, eh ben, ce résultat, on ne sait pas quoi en faire. On le jette. À l'inverse, on ne peut pas appeler, on ne peut pas utiliser sauter trois lignes comme une expression. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? X égale sauter trois lignes. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette dans X? Donc ici, on a l'idée qu'une abondance d'informations ne nuit pas, il suffit de jeter l'information. En revanche, un défaut d'information nuit, on ne peut pas inventer de l'information. Ici, quel devrait être d'ailleurs le type de la variable X pour qu'on puisse écrire X égale sauter trois lignes. Donc rappelez-vous que dans les programmes bien écrits, les fonctions, l'appel d'une fonction n'est qu'une expression, mais ça peut aussi être une instruction. Bien, dernier point, et là vous voyez que la notion de fonction est relativement touffue, il y a plusieurs notions, plusieurs idées à prendre en compte, plusieurs idées à comprendre avant de pouvoir commencer à les formaliser. La notion de variable globale. Donc ici j'ai un programme où je déclare une variable x, et puis je fais x égale 3, x égale 0, et je me dis cette instruction x égale 0, elle revient relativement souvent, et donc je vais vouloir lui donner un nom. Et un nom typique pour x égale 0, c'est d'appeler une fonction reset. Donc je définis une fonction reset qui ne prend pas d'argument et qui est une fonction ou une procédure. Une procédure, puisqu'ici j'ai le mot-clé void, donc elle ne retourne pas de valeur, elle ne prend pas d'argument, elle ne retourne pas de valeur, mais elle effectue une action qui est de mettre à zéro la variable x. Et ensuite, je réécris mon programme, int x, x égale 3, et x égale 0, j'ai transformé ça en reset. Est-ce que ce programme est correct? Alors, qui pense que oui? C'est bien, vous avez du courage. Qui pense que non? Alors, il y a deux raisons pour penser non. C'est que si j'ai dramatisé la question de cette manière, c'est forcément que la réponse est non. Et puis, il y en a une deuxième, c'est que vous avez compris pourquoi c'est non. Alors, pourquoi c'est non? Voilà, parce que la portée de X, c'est ici cet ensemble d'instructions. Et rappelez-vous, la portée, c'est quelque chose de statique. C'est-à-dire, c'est pas la manière dont on va se balader entre les fonctions, revenir, blablabla, etc., qui détermine l'environnement dans lequel on exécute une fonction. Ce qui détermine l'environnement dans lequel on exécute une fonction, c'est la géométrie, c'est l'endroit, le lieu où la fonction est déclarée. Et là, vous voyez que dans cette fonction, on voit mal comment la fonction pourrait savoir que le jour où on va l'appeler, ça sera dans un environnement dans lequel il y a x. D'ailleurs, ça n'a aucune importance, l'environnement, le jour où on va l'appeler. Ce qui est important, c'est l'environnement de la fonction elle-même, et elle ne connaît pas la variable x. Et donc pour ça, on a inventé une autre notion qui s'appelle la notion de variable globale. Et avant la déclaration de la fonction, on peut déclarer une variable globale x et on la déclare non pas dans le programme, mais au même niveau que la déclaration des fonctions. On va voir tout à l'heure comment ça s'organise. Et ça se déclare exactement comme une fonction avec le mot-clé statique, éventuellement final, et ensuite on indique le type et le nom de la variable. Et maintenant, aussi bien ce x que celui-là sont dans la portée de cette déclaration. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème de savoir quel est l'environnement dans lequel le corps de la fonction s'exécute. Et ça, on va y répondre quand on va formaliser la fonction sigma. Bien, dernière notion, avant qu'on attaque des choses un tout petit peu plus formelles, la notion de programme principal. Donc on était parti d'un programme P, et puis on a extrait des bouts de programme qui nous ont donné des fonctions F1, FN' ici, donc on les définit en disant statique, puis le type de retour, puis le nom de la fonction, puis les arguments avec leur type et leur finalité, puis le corps de la fonction, et on a vu qu'avec ça, on allait ajouter des déclarations de variables globales, x1, xn, qui ont des types t1, tn, et qui ont des valeurs initiales petit t1, petit tn. Bien, donc ici, il reste juste le problème principal qui est précédé de ces déclarations. Alors, il y a un petit peu de syntaxe qui encore diffère d'un programme, d'un langage à l'autre. En Java, le programme, comme on sait d'ailleurs, le programme principal est une fonction, et cette fonction porte un nom particulier, elle s'appelle main. Donc ici, je n'ai pas juste indiqué le programme principal, mais en même temps que j'ai déclaré f1, fn', j'ai déclaré une certaine fonction main qui a un type qui est une procédure, qui n'a pas de type de retour, qui a un autre mot-clé qui est public, dont on parlera à peine dans ce cours, et puis qui a un argument qui est un tableau de chaîne de caractères dont on ne va pas beaucoup se servir. Bon, peut-être qu'en TD, certains enseignants vont vous montrer comment vous amuser avec ce tableau de chaîne de caractères, mais bon, supposer qu'il est toujours vide, on ne va pas beaucoup s'en servir. Et ensuite, on met ici le programme P. Et puis, l'ensemble de ces déclarations de variables globales et de fonctions, y compris la fonction main, qui est le programme principal, on l'encapsule dans on donne un nom au programme. Ici, j'ai appelé le programme prog, et le nom du programme s'introduit par ce mot-clé classe. Donc, on écrit classe, le nom du programme, on ouvre une accolade, les déclarations de variables globales, les déclarations de fonctions, puis la déclaration de la fonction main, et on ferme l'accolade ici, qu'on avait ouverte là, en essayant de bien balancer les accolades, de bien indenter le programme. Bien. Essayons maintenant de synthétiser dans la définition de la fonction sigma tout ce qu'on vient de dire. Ok, donc on vient de dire de nombreuses choses. On vient de dire qu'il y a une possibilité d'appel de fonction, on vient de dire qu'il y a une possibilité de ne pas donner de type de retour et d'indiquer void, ce qui veut dire que ça va être une procédure. On vient de dire qu'on peut utiliser un appel de fonction dans une expression et un appel de procédure dans une instruction, mais aussi un appel de fonction dans une instruction. On vient d'expliquer qu'il y a une instruction return qui interrompt le déroulement de la fonction, mais vraisemblablement d'une seule fonction à la fois pour revenir au contexte d'appel. On vient de dire qu'il y a une notion de programme principal, et on vient de dire qu'il y a une notion de variable globale. Donc tout ça, comment est-ce qu'on peut prendre en compte ça dans la définition de la fonction sigma? Bien, la dernière fois, ce qu'on avait vu hier, c'était qu'on avait une fonction θ qui a une expression associée à une valeur, une fonction sigma qui a une instruction associée à une mémoire, et ces deux fonctions avaient trois arguments. La première, l'expression, et puis deux autres arguments qui sont l'état décomposé en un environnement et une mémoire, et là, pareil, l'instruction, et puis l'état qui est décomposé en un environnement et une mémoire. Donc, on va avoir un certain nombre de nouveautés. Il va falloir un tout petit peu compliquer la définition de la fonction sigma, la complexifier pour prendre en compte tout ce qu'on a dit sur les fonctions. Et la première chose, la première des trois nouveautés dans la définition de la fonction sigma, c'est que, outre une instruction ici, l'environnement et la mémoire, on a besoin d'un nouvel argument qui est l'environnement global, qui est quelque chose qui est propre à l'ensemble du programme et qui va contenir la définition des fonctions et la définition, la déclaration des variables globales. Donc tout ce qui est global au programme, à savoir les variables globales et les fonctions, va être défini dans cet environnement global G, et qu'il faut distinguer de l'environnement local E, qui lui va changer à chaque fois qu'on fait une déclaration. Donc lui, il contient les variables locales, lui les variables globales et les fonctions. Les variables locales, c'est les fonctions qu'on déclare dans le programme, dans une fonction, et donc quand on va exécuter la portée de cette déclaration, eh bien, on a un environnement différent. Bon, puis c'est pareil pour les expressions, la fonction θ va avoir un argument supplémentaire qui est cette fonction, cet environnement global G. Alors, une chose nouvelle encore, c'est que l'exécution d'une instruction, d'une expression, peut désormais modifier la mémoire. Donc, quand on, quand on calculait la valeur d'une expression, par exemple 3 plus 4, bien, on avait un résultat 7, mais on ne modifiait pas la mémoire. Si x valait 2 avant, x vaut toujours 2 à la fin. En revanche, l'exécution d'une instruction, x égale 8, peut modifier la mémoire. Si x valait 2 avant, x vaut 8 après. Ici, on se trouve, dans, et donc c'est pour ça que, ici, hier, on retournait juste une valeur et pas de mémoire, alors que là, on retournait une mémoire parce que la mémoire peut avoir changé. Mais maintenant, on a une nouveauté, c'est qu'une fonction comme cette fonction f, qui fait quoi? La fonction f, elle retourne, elle prend un argument x et elle retourne 2 fois x. Mais elle va aussi ajouter 1 à une variable globale n. À quoi va me servir cette variable globale n? À quoi faire? Oui? J'entends rien. Voilà, on compte le nombre de fois qu'on a appelé la fonction f. D'accord? Donc, par exemple, j'ai un programme et je suis en train d'essayer de faire des statistiques sur la manière dont il fonctionne et je l'ai modifié en rajoutant ici un compteur qui me dit combien de fois je suis passé par f. Si je suis passé 1 million de fois par f, ça vaut le coup ici d'optimiser f et de mettre x plus x, par exemple. Si je suis passé seulement une fois ou deux, ben, c'est pas grave, c'est pas là qu'il faut que je concentre mon effort d'optimisation. Bon, mais oublions pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire cette fonction. Elle m'est simplement permise par la syntaxe, donc il y aura forcément un jour un programmeur qui va programmer ça. Et j'ai une fonction qui fait deux choses. D'une part, elle retourne une valeur, et d'autre part, elle modifie la mémoire. Cette fonction, comme elle retourne une valeur, l'appel de cette fonction va être une expression, et non pas une instruction. Ça peut aussi être une instruction, mais en tout cas, ça peut être une expression. Et donc, quand je vais calculer f de 4 plus 5, ça va me donner quoi? F de 4 plus 5, ça va donner quel résultat? 13, merci. Mais ça va aussi avoir modifié la mémoire. Donc, je ne peux plus me contenter de dire que θ de E, M et G est une valeur V, mais maintenant, je dois dire que c'est un couple formé de la valeur calculée et du nouvel état de la mémoire. Dans bien des cas, la mémoire ne va pas changer, mais dans certains cas, en particulier dans l'appel de fonction, si à l'intérieur du corps de la fonction il y a des affectations, cette valeur va changer. Et enfin, il y a tout le problème du return, qui est que je veux exprimer le fait que return interrompt l'exécution de la fonction, interrompt le déroulement de la fonction, et ça va m'amener à m'interroger sur ce qui me paraissait hier le cas le plus simple, qui est le cas de la séquence. Est-il toujours vrai que quand j'exécute P1 puis P2, eh bien ça me demande d'exécuter P1 dans un environnement et une mémoire et un environnement global, et puis d'exécuter P2 dans la mémoire que j'ai obtenue ici. Est-ce que c'est toujours vrai? En particulier, est-ce que c'est vrai quand j'ai une séquence comme celle-ci? Si x est plus petit que 0, return de moins 1, sinon return de 1. Est-ce qu'il est vrai qu'après avoir exécuté ça, je vais toujours exécuter ça? Eh bien non. Précisément, si je dis que exécuter return interrompt le déroulement de la fonction, je suis en train de dire quelque chose non pas sur le return, mais je suis en train de dire quelque chose sur la séquence. C'est que dans la séquence, je vais exécuter P2 uniquement quand P1 n'a pas rencontré d'instruction return. Donc pour ça, il va falloir qu'à chaque fois que j'exécute une instruction, outre la mémoire produite par l'exécution de cette instruction, M', il va falloir que je me souvienne si l'instruction s'est déroulée normalement, auquel cas ici je vais ajouter à M' le booléen normal, tout s'est bien passé, ou bien si l'instruction, l'exécution de l'instruction P a rencontré un return, auquel cas je vais mettre ici le booléen return, qui m'indique que j'ai rencontré un return. Et d'ailleurs, je dois aussi donner la valeur qui a été retourné au moment où j'ai rencontré Sreeter. Et la séquence eh bien, va prendre en compte le fait que si P1 me donne un résultat qui est return blablabla, eh bien, je ne vais pas exécuter P2. Bien, alors maintenant qu'on a essentiellement complexifié non pas la définition de la fonction sigma et de la fonction θ, mais simplement les arguments qu'elles prennent et le résultat qu'elles rendent. Qu'est-ce qu'on a rendu plus complexe? On disait θ comme sigma d'ailleurs prenait avant trois arguments, l'expression ou l'instruction qu'on veut exécuter, l'environnement, la mémoire. On dit maintenant, nouveauté, il y a l'environnement global. Donc ça, c'est plus complexe. Et à l'inverse, dans ce que retournent ces fonctions, on a vu que θ, d'une part, doit nous donner non seulement une valeur, mais aussi une nouvelle mémoire, et sigma doit nous donner non seulement une nouvelle mémoire, mais aussi un booléen, normal ou return, et éventuellement une valeur, si on est dans le cas return. D'ailleurs, vous voyez que sigma et θ commencent à se ressembler. Θ, ça renvoyait une valeur, et maintenant ça renvoie une valeur et une mémoire. Et sigma, ça renvoie une mémoire, et maintenant ça renvoie une mémoire et possiblement une valeur. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que devient la définition de ces fonctions θ et sigma, maintenant qu'on est dans ce contexte plus riche? Maintenant qu'on a enrichi l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de ces fonctions. Eh bien, pour θ, en gros, tous les cas sont les mêmes, sauf qu'on tient compte de cet enrichissement, sauf la fonction qui est un cas nouveau. Donc voyons d'abord ce qui se passe quand on a une variable. Eh bien, on fait exactement comme avant, on renvoie m de e de x quand x est mutable et e de x quand x est final, mais en plus, on renvoie la mémoire m, puisque θ maintenant doit indiquer quelle est la valeur de la mémoire. Et on ne change pas la mémoire, on renvoie la même mémoire que celle qu'on a reçue comme argument. Pareil avec une constante, on renvoie cette même constante avec la mémoire. Et le cas de l'addition est à peine plus compliqué. On avait dit hier, θ de t plus u, c'est θ de t plus θ de u. Et ici, on dit la même chose, sauf que, attention, on commence par calculer t dans la mémoire m, ça peut nous donner une mémoire m', et quand on calcule u, eh bien, on calcule u dans la mémoire m', et ça nous donne une mémoire m seconde. Et donc, la mémoire qu'on retourne, c'est m seconde, et la valeur qu'on retourne, ben, c'est la somme des résultats. Ici, qu'est-ce qu'on a dit d'important? C'est que le calcul de t et le calcul de u ont été faits dans un certain ordre. Et vous voyez que, autant hier, on pouvait faire le calcul de t et le calcul de u de manière indépendante, on allait obtenir deux valeurs, et puis les ajouter. Donc on ajoute 4 et 8 en ayant calculé d'abord 4 ou d'abord 8, le résultat sera probablement 12 dans les deux cas. Mais ici, vous voyez que le résultat peut varier, puisque le calcul de u peut utiliser la valeur d'une variable qui a été modifiée par le calcul de t. Et donc, l'ordre d'évaluation, savoir si on évalue d'abord t ou d'abord u dans une somme, affecte le résultat. Ces questions d'ordre d'évaluation, c'est ce qui fait beaucoup que deux compilateurs du même langage donnent des résultats différents. Donc bien souvent, celui qui écrit un compilateur se dit « Ah, mais si je calcule u avant, je vais gagner un microcycle. » Un autre qui a utilisé une autre technique de compilation dit « Si je calcule t avant, je vais gagner un microcycle. » Et hop, deux programmes donnent deux résultats différents. Donc vous testez un programme sur votre PC, il marche, vous le mettez dans un Airbus, l'Airbus s'écrase. Bien. Pareil pour les autres opérations, multiplier, diviser, etc. Et la nouvelle opération, c'est l'appel de fonction. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un appel de fonction f de t1 tn, qui est une expression? En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter le corps de la définition de la fonction f, et puis on va espérer qu'en exécutant le corps de cette fonction, on va rencontrer l'instruction return. Si on ne le rencontre pas, c'est qu'il y a un bug dans le programme, on va le signaler. Et si on la rencontre, on va avoir une certaine valeur v, et ça sera la valeur de cette expression. OK? Alors, première question, où est-ce que je vais aller trouver le corps de la fonction f? Dans l'environnement global G, qui est là pour ça. Deuxième question, dans quel environnement est-ce que je vais exécuter le corps de cette fonction f? Alors, la réponse facile, ce serait de dire, on veut un environnement, il y en a un, c'est E. Mais c'est une réponse trop facile. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est d'une part, il faut d'une part tenir compte du fait que T1, Tn, ici, je vais les calculer et je vais les passer en argument à la fonction. Donc, j'ai besoin que dans mon environnement, les variables x1, xn, que j'ai déclarées au moment où j'ai déclaré la fonction, soient associées aux valeurs de T1 et de Tn. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que je ne veux pas que dans le corps de la fonction soient visibles les variables que j'ai pu déclarer dans le programme principal avant d'appeler la fonction. D'accord? C'est ce qu'on avait vu avec les variables globales. Quand on avait vu la fonction reset, il ne fallait pas qu'elle puisse accéder à x. OK? Donc l'environnement, il n'a rien à voir avec celui-là. C'est l'environnement de toutes les variables globales que je vais étendre avec les variables qui m'ont permis d'appeler la fonction. D'accord? Donc, voyons comment ça marche. Je commence par récupérer dans G les arguments formels x1, xn et le corps de la fonction p. Je récupère aussi dans G l'environnement E' qui est l'environnement des variables globales. D'accord? Dans G, vous vous souvenez, j'ai les variables globales et les fonctions. Donc je récupère la fonction que je veux et toutes les variables globales, ça constitue un environnement. Ensuite, je calcule les valeurs des arguments V1, V2, Vn. Les arguments, c'est T1, Tn, donc je calcule la valeur de T1, je l'appelle V1, je calcule la valeur de T2, je l'appelle V2, je calcule la valeur de Tn, je l'appelle Vn. Donc ça, ça s'appelle évaluer les arguments de la fonction. Et attention, l'évaluation de chacun des arguments peut modifier la mémoire. Et donc, j'évalue T1 dans M, mais ça me donne une mémoire M1, et quand j'évalue T2, je l'évalue dans M1, ça me donne une mémoire M2, etc. Et à la fin, je récupère une mémoire qui a beaucoup changé. Elle a changé déjà N fois par l'évaluation de T1, par l'évaluation de T2, par l'évaluation de T1. C'est la mémoire MN. Bien, je me retrouve avec, donc ici, un petit bout de l'environnement, c'est l'environnement des variables globales. Ici, les valeurs que je veux associer aux variables x1, xn, qui sont les arguments formels de la fonction f. Et je fabrique cet environnement E seconde, qui est E', les variables globales, étendues par toutes les déclarations des variables x1, xn, qui sont les arguments formels de la fonction. Attention, si ces arguments formels sont mutables, je les associe à de nouvelles références, que j'associe à leur tour aux valeurs dans la mémoire. Si jamais ils sont finaux, je les associe directement, ici, c'est là, à la variable dans l'environnement, et il n'y a rien qui correspond dans la mémoire. Donc voici l'environnement dans lequel je veux exécuter le corps de la fonction. Voici la mémoire dans laquelle je veux exécuter le corps de la fonction. C'est la mémoire MN que j'avais obtenue après avoir évalué tous mes arguments et que j'ai étendue par la déclaration des références associées aux variables mutables, aux arguments formels mutables et aux valeurs de ces arguments. Et donc ça y est, ici j'ai complètement expliqué dans quel environnement et dans quelle mémoire je vais évaluer le corps de la fonction. Et ce dont il faut se souvenir, c'est que dans cet environnement, je n'ai que deux types de variables, les variables globales et les arguments formels. Je n'ai pas les variables localement déclarées au moment de l'appel. Bien, eh ben, je suis au bout de mes peines. Il ne me reste plus qu'à calculer sigma du corps de la fonction dans cet environnement et dans cette mémoire, avec ici toujours le même environnement global G. Lui, c'est le seul qui ne change pas. Et il y a deux cas. Ou bien j'obtiens quelque chose qui a la forme return, c'est-à-dire l'exécution de P a rencontré l'instruction return, et j'ai une valeur V, et une nouvelle mémoire M tierce, et ça y est, je sais quelle valeur je veux retourner, c'est V, et je sais quel est l'état de la mémoire à la fin de l'exécution de mon expression, c'est m tierce. Ou bien, je trouve ici normal et une mémoire, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de l'exécution du corps de la fonction, je n'ai pas rencontré l'instruction return. C'est une erreur. La fonction a été mal écrite par un programmeur qui a fait beaucoup de camel avant et qui du coup a oublié de mettre return avant la valeur à retourner. Donc c'est une erreur. Donc ici, il n'y a que le cas où c'est return qui fait que ma fonction sigma est définie et voici, et ma fonction θ est définie et voici sa valeur. Bien, l'exécution des instructions maintenant. Bonne nouvelle, la déclaration ne change pas, l'affectation ne change pas, le test ne change pas, la boucle ne change pas. Donc j'ai déjà fait 4 cinquièmes du travail. La seule chose qui change, c'est la séquence. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui fait changer la séquence, c'est le return. Et le return fait que quand j'évalue une séquence, je commence par évaluer P1, et il y a deux cas. Si P1 s'évalue normalement, j'ai une mémoire M', et bien je fais exactement comme hier, j'évalue P2 dans M' et j'obtiens la mémoire M' de résultat de l'évaluation de P1 et de P2. Sinon, si jamais P1 a donné un return, avec une certaine valeur V, une mémoire M', et bien je n'exécute pas P2, et la valeur de sigma en P1, P2, et bien c'est cette même valeur et cette même mémoire. Donc c'est ici que je suis en train d'expliquer que return interrompt le déroulement normal du programme, et ce n'est pas une propriété de return, c'est une propriété du déroulement du programme d'être interrompu par return. Bien, il y a deux nouveaux cas par rapport à hier. Il y a l'appel d'une procédure ou l'appel d'une fonction, et le return, qui sont une nouvelle instruction. Alors l'appel d'une fonction, c'est tout à fait identique à l'appel d'une fonction dans le cas d'une expression. Donc je commence par aller piocher le corps de la fonction, les arguments formels de la fonction dans l'environnement global. Je vais également piocher l'environnement des variables globales. Je fabrique mon environnement en évaluant les arguments l'un après l'autre. Et enfin, j'exécute le corps de la fonction dans ce nouvel environnement et dans cette nouvelle mémoire. Et là, il y a deux cas possibles. Il y a le cas où j'ai obtenu normal. C'est-à-dire, l'exécution de la fonction n'a pas rencontré le mot-clé return. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ici, je parle des instructions. Donc, ce que j'ai appelé, a priori, c'était une procédure. Sauter trois lignes. Et dans sauter trois lignes, il n'y a pas return. Mais c'est normal. Donc ici, j'ai normal, m tierce, et ma valeur, enfin, la mémoire que j'obtiens comme résultat de l'évaluation de mon appel de fonction, ici, eh bien c'est juste m tierce. Et puis, ici, pardon, c'est juste m tierce et je dis que c'est normal. Mais maintenant, vous vous souvenez que je vous avais dit que les fonctions aussi pouvaient être utilisées comme des instructions. Auquel cas, qu'est-ce qu'on fait de la valeur retournée? On la jette. On perd de l'information. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Si je retourne, si je trouve, non pas normal, mais return V m tierce, eh bien je dis l'exécution de ma fonction est terminée. Et le résultat, enfin la nouvelle mémoire, c'est m tierce. Et l'exécution s'est passée tout à fait normalement. Et la valeur V, ici, elle est disparue. Elle n'est pas utilisée. Donc c'est l'endroit où elle est jetée. C'est le bon moment pour s'apercevoir que si j'ai un programme principal qui appelle une fonction f, qui appelle une fonction g, et que dans la fonction g, je trouve l'instruction return, eh bien, je reviens à la fonction f, mais pas au programme principal. Pourquoi? Parce que vous voyez que même si j'ai trouvé return, ici, donc à l'intérieur, au moment où j'ai évalué le corps de g, ça m'a donné return, eh bien, l'appel de g qui se trouve dans f, c'est exécuté normalement. Donc c'est une exécution normale. Ce n'est pas une exécution qui a trouvé un return. Si ici, à la place de normal, je mettais return, en gardant V par exemple, eh bien à ce moment-là, je serais en train d'indiquer qu'il faut retourner au programme principal. Parce que l'exécution de G à l'intérieur de F me donnerait un résultat qui est return. Donc j'interromprai le résultat, l'exécution de F, et je reviendrai au programme principal où, même s'il y avait 20 appels de fonction d'un coup, je reviendrai tout en haut. D'accord ? Donc c'est ici, en mettant normal et non return, que je suis en train d'indiquer que quand on exécute G à l'intérieur de F, qu'on appelle G à l'intérieur de F, et que G rencontre return, on revient à F et on ne revient pas au programme principal ou à la fonction qui a appelé F. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on a vu? C'est qu'on a eu deux manières essentiellement différentes de dire les choses. D'abord, on a décrit les choses une par une. On a dit il y a un certain nombre de problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi j'enlève mes slides de temps en temps et je les remets? Voilà, parce que j'ai pas de montre et dans cet amphi, il n'y a pas d'horloge. Pour conclure, on a dit les mêmes choses de deux manières différentes. D'abord, on a dit il y a un certain nombre de problèmes. Puis on va les énumérer et à chaque fois, on va proposer des solutions. Donc, quels ont été les problèmes? Eh bien, il y a return et return, on veut qu'il interrompe l'exécution. Et puis ça pose tout un tas de problèmes. Où est-ce qu'on revient dans F, dans G? On va l'expliquer. Bon. Ensuite, on a dit il y a un problème de portée des variables, donc il faut une notion de variable globale. Et ces deux problèmes nous paraissaient indépendants. Et puis on a dit il y a d'autres problèmes, c'est la différence entre fonction et procédure. Il y a un autre problème, c'est qu'une fonction maintenant peut modifier peut modifier la mémoire, etc. Et donc on a une approche orientée par les problèmes, on voit les problèmes l'un après l'autre et on apporte des solutions à ça, où on explique comment ça marche dans ces situations. Qu'est-ce que cette approche a comme défaut? C'est que on a un problème A, qui est le problème du return, on a un problème B, qui est le problème de la portée des variables, et on dit, voilà, le problème A a une solution A', le problème B a une solution B'. Qu'est-ce qu'on ignore sur A' et B'? De savoir si A' et B' sont compatibles. Et ça, c'est le problème essentiel. Quand on a un problème à résoudre, on le résout, et la solution est compatible avec elle-même. Quand on a deux problèmes à résoudre, on les résout, et après on fait une réunion de coordination pour savoir si les deux solutions sont compatibles. Et quand on a 1000 problèmes à résoudre, on les résout, les solutions ne sont pas compatibles, et le logiciel qu'on a conçu ne marche pas, ou le langage qu'on a conçu ne marche pas. D'accord? Donc, il y a une deuxième étape, après avoir résolu tous les problèmes, c'est de les intégrer et de les faire fonctionner ensemble. Et vous avez vu que ici, dans la définition de la fonction sigma, je n'ai pas traité de manière différente ce que fait la fonction sigma dans le cas de la séquence pour expliquer un jour le return et pour expliquer les variables globales. Je dois donner une seule définition de la fonction sigma et il faut que dans cette définition soient intégrées toutes les idées que j'ai eues pour résoudre tous les problèmes qui sont posés avant. Donc c'est seulement quand j'ai réussi à donner une définition et que cette définition a l'air de répondre à peu près à toutes les volontés que j'avais, que je sais que j'ai bien compris ce que font les fonctions dans ce cas-là, où j'ai bien résolu mon problème en général. Bien, donc on va terminer par un exemple. Voici la fonction hypoténuse, dont on a beaucoup parlé. Je rappelle qu'elle fait racine de x2 plus y2. X et y sont des flottants en double précision. Le résultat est aussi un flottant en double précision. Et x et y sont finales. Pourquoi elles sont finales? Parce que je ne les affecte pas dans la fonction. Donc, j'ai aucune raison de les déclarer mutables. Je les déclare finales par défaut. Enfin, je choisis de les déclarer finales. Bien, et ensuite, j'ai ce programme qui fait ceci. A égale 3, B égale 4, U égale hypoténuse de AB. Et j'affiche le résultat de U. Et vous voyez que A et B ne sont pas déclarés ainsi que U, ne sont pas déclarés dans la fonction main. Donc, il est implicite, il n'est pas dit dans le transparent, mais la seule solution, c'est que ça soit des variables. Si elles ne sont pas déclarées, c'est forcément qu'elles sont déclarées ailleurs, et si elles sont déclarées ailleurs, c'est forcément des variables globales. Donc, je commence avec 3 boîte qui s'appelle A, B, et U. Donc elles ont la même taille. Hein, la différence de taille est juste liée à mes relations difficiles avec mon marchand de chaussures. Mais j'aurais souhaité qu'elles aient toutes la même taille. Et est-ce qu'elles peuvent être vides? Non, donc elles ont au départ des valeurs, sans doute 0, mais aucune importance. Quelles sont ces valeurs? J'exécute A égale 3. Donc je mets A, 3 dans la boîte A. Donc ça c'est 4. Pardon. J'exécute B égale 4. Donc je mets 4 dans la boîte B. On va supposer qu'il y avait 7 au départ dans la boîte U, parce que s'il y a 5, c'est vraiment pas drôle. Et je viens maintenant exécuter cette instruction U égale hypoténuse de AB. Donc qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais aller regarder la définition de la fonction sigma pour l'affectation. Et on me dit, c'est comme hier. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire hier? Il fallait calculer θ de T, θ de l'expression qui est affectée. Et c'est quoi ici l'expression qui est affectée? C'est hypoténuse de 3, 4. Donc il faut que je calcule θ de hypoténuse de 3, 4. Alors ça c'est expliqué là. Donc je commence par calculer. Alors je commence par récupérer le code d'hypoténuse, le corps de la fonction hypoténuse et les variables locales. C'est quoi les variables locales? X et Y. Je calcule les valeurs des arguments formels. C'est quoi les arguments formels? A et B, bravo. La valeur de A, c'est 3. La valeur de B, c'est 4. Bien, la mémoire n'a pas changé dans cette évaluation. Donc Mn, c'est M. Donc il arrive que les choses soient plus simples que dans le cas général. Et donc maintenant, je fabrique mon environnement E seconde, qui est E' étendu par x égale 3 et y égale 4. C'est quoi l'environnement global? Ben, c'est celui qui se trouve sur la table. Mais c'est une coïncidence. On verra un exemple différent tout à l'heure. Et donc, à cet environnement global, je rajoute ici deux boîtes, x et y. C'est correct, ça? Et non, mes arguments sont finaux. Donc, pas de boîte. C'est juste x et y que je scotche sur un 3 et un 4. Et donc, c'est ça mon environnement. Là-dedans, j'exécute quoi? Le corps de la fonction. C'est quoi le corps de la fonction? Je veux entendre tous les mots. C'est quoi le corps de la fonction? X carré plus Y carré. C'est un bon début. Voilà, c'est return de racine de x2 plus y2. Ce n'est pas racine de x2 plus y2, c'est return de x2 plus y2, c'est une instruction. J'exécute, je vais aller reposer ça parce que si mon environnement est complètement délocalisé, on ne va plus y arriver. Donc ça c'est toujours là. J'exécute return de racine de x2 plus y2. Pour ça, il faut que j'évalue racine de x2 plus y2. Et ça me donne 5. Et maintenant, mon appel de fonction m'a donné comme résultat quoi ? Return, 5, et quoi ? Et la mémoire qui est là, en oubliant les étiquettes. Et donc, j'ai fini l'exécution de l'environnement de ma fonction, de l'exécution du corps de ma fonction. Je n'ai plus besoin de l'environnement E seconde. Je suis revenu dans le cas où j'ai un environnement E, mais avec la nouvelle mémoire. Et là-dedans, je fais U est égal à 5. Et donc, voici la mémoire. Variante. Qu'est-ce qui se serait passé si mes arguments étaient mutables? Eh bien, dans ce cas-là, au lieu de tenir de manière ridicule mes deux valeurs en l'air, j'aurais introduit deux nouvelles références dans lesquelles j'aurais mis 3 et 4. Elles se seraient appelées X et Y. J'aurais exécuté ici return racine de x2 plus y2, ça m'aurait donné exactement le même résultat, et après avoir fait ça, je serais revenu à l'environnement initial, et ces deux boîtes auraient disparu. OK ? Et j'aurais eu 5. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé ici si les variables A, B et U avaient été déclarées localement dans le programme principal, au lieu d'être des variable globale. Eh bien, dans ce cas-là, je serais parti d'un environnement vide. J'aurais commencé à exécuter le programme. Donc, j'aurais déclaré A, j'aurais déclaré B, j'aurais déclaré U avec 0, une valeur quelconque. Et puis, j'aurais ensuite appelé ma fonction et j'aurais exécuté. Donc, supposons que les arguments sont mutables. Donc, j'aurais exécuté le corps de ma fonction dans quel environnement ? Dans un environnement qui contient x et y liés à des boîtes qui contiennent 3 et 4, mais qui ne contient pas A, B et U. Donc A, B et U auraient disparu le temps de l'exécution du corps de la fonction. Et donc, ça veut dire que, heureusement, que dans le corps de la fonction, je n'utilise pas A et B. Parce qu'ici, je pourrais y avoir accès dans le cas où A et B sont des variables globales, mais dans le cas général, non. Dans le cas où elles sont locales, non. Et c'est seulement après avoir obtenu mon résultat que je serais revenu dans l'environnement E, où il n'y a pas X et Y, mais où A, B et U sont déclarés. Et c'est là où j'aurais fait l'affectation U est égal à 5. OK ? Donc vous pouvez prendre des programmes plus difficiles, plus complexes que cela, mais en théorie, vous avez toutes les instructions nécessaires pour faire des simulations avec des boîtes dans vos casers ou dans les barres d'étage, si vous voulez les faire à plusieurs, pour comprendre ce qui se passe quand vous exécutez une fonction. Voilà, pour demain, je vous propose de regarder les exercices 2.3, 2.4 et 2.5 du poly. Et demain, nous terminerons cette question des fonctions en parlant d'un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, qui est le passage par référence, et on abordera une nouvelle notion qui s'appelle la récursivité. À demain.